Kiosque de l'année. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir reparler de cette année 2017. On va voir avec vous ce que vous en retenez dans l'actualité sur la surface du globe. Mais d'abord, allons dans le monde parallèle de l'Internet. Est-ce que vous savez quelle vidéo a battu tous les records de vues cette année? Personne ne sait?
Des animaux.
Est-ce que c'est des chats? Est-ce que c'est des enfants?
Des chats.
Qui...
Regardez et dansez. Bon, allez, arrêtez tous de danser. Vous le savez, la population mondiale est estimée à peu près 7 milliards de personnes et ce sont 4 milliards et demi de vues sur YouTube pour Despacito, comme on entend là, le hit latino de l'année, concocté par deux stars portoricaines, Luis Fonsi et Daddy Yankee. Clip posté le 12 janvier, il est en tête des vidéos musicales de 2017 dans plus de 50 pays. C'est bluffant?
Incroyable.
C'est épatant.
Non, ce qui est marrant, c'est que c'est pas une vidéo d'internautes lambda en fait, c'est-à-dire que les industries culturelles se sont peut-être réappropriées la logique des réseaux. Je dis peut-être, j'ai un peu une idée sur la question, mais enfin voilà, c'est assez intéressant de voir que c'est pas du tout une vidéo d'anonyme.
Et c'est pas une vidéo de chat.
Et c'est pas une vidéo de chat, c'est une bonne nouvelle pour le coup.
Parce que les chats ne peuvent pas devenir professionnels.
Ça doit être pour ça. On va y venir à cette année 2017, voilà, elle arrive à son terme, encore deux semaines et on passe en 2018. Comment vous la qualifiez, Béatrice?
Bah, c'est une année où on la craignait beaucoup parce qu'on s'était dit bon, il y a du Trump, il va y avoir de l'extrême droite un peu partout. Et alors on a cru être rassuré. Moi je dirais que c'est une année qui nous laisse très inquiets sur la suite du monde, pour le monde. Je trouve qu'on est très inquiets, on est face à beaucoup de zones de fragilité, de zones de fracture. On est avec un pouvoir qui a échappé aux États-Unis, ou en tout cas qui échappe à la raison, mais pas que là. Et donc je pense qu'on est assez inquiet et en même temps, en parallèle, des citoyens qui se réapproprient de plus en plus leur territoire.
Tania, comment vous la qualifiez cette année 2017?
Je serais d'accord avec Béatrice que oui, c'est une année inquiétante parce qu'il y a quand même beaucoup des problèmes et des conflits qui ne sont pas résolus et on ne voit pas comment on va les résoudre. Les résolutions ne sont pas faciles, mais en même temps, il est vrai aussi que ça montre que dans certains pays, enfin, il y a des gens qu'on se réapproprie du pouvoir, qu'on arrive à voir à travers la propagande. Et donc, il y a quand même un peu d'espoir. Mais je pense qu'on est pas loin, enfin, on est au début d'une grande restructuration de nos rapports au pouvoir. Mais comment ça va se passer?
Julien, inquiétant, mais de l'espoir. Vous partagez cette analyse de Béatrice et de Tania?
Oui, en partie. Enfin, le monde change très très vite. C'est très difficile d'ailleurs de le documenter, de le raconter, de le mettre en récit, de le comprendre, d'introduire à cette complexité. Et dans le même temps, oui, le pire n'est pas assuré. Encore que, quand on regarde par exemple la question du réchauffement climatique, enfin, je suis désolé, mais c'est compliqué d'être optimiste, puisqu'on continue d'aller dans le mur. Je ne suis pas un dangereux gauchiste, écologiste en disant ça. On est tous d'accord sur le fait que les choses restent très compliquées. Et dans le même temps, je suis d'accord, y compris d'ailleurs moi, enfin, mon travail me conduit à observer beaucoup ce qui se passe sur les réseaux, et ça ne me rend pas, je dirais, catastrophiste non plus. Donc, il y a de l'espoir.
Alors, je vous ai demandé à tous les trois de choisir ce qui pour vous était peut-être un thème emblématique de cette année 2017. On va commencer avec vous, Tania. Vous retenez la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Je précise que vous travaillez à une série documentaire en ce moment pour la BBC sur le Brexit. Donc vous êtes basé à Londres, vous êtes plongé là-dedans. Mais si, c'est peut-être pour ça effectivement. Mais c'est intéressant du coup, puisque la semaine dernière on en parlait du Brexit dans Kiosque. Donc ça reste quand même d'actualité. Comment c'est vécu? On a eu l'acte 1 la semaine dernière, un accord entre Bruxelles et Londres. Comment s'est vécu cet accord et ce Brexit sur place, et notamment par ceux qui ont voté pour le Brexit?
Voilà, ce qui est très intéressant, que c'est un peu difficile de trouver les gens qui ont voté pour le Brexit. Enfin, ça fait déjà 2 mois que je suis installée à Londres. Enfin, parmi mes collègues, bien sûr, il n'y a personne. Et les gens que je rencontre, il n'y en a pas. Enfin, c'est vrai que je suis à Londres. Pourquoi j'ai retenu Brexit? Parce que je j'étais peut-être d'accord avec les autres, mais par définition, je ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Donc, je me suis dit, voilà, je fais une autre chose. Je me suis dit, mais je pense que Brexit, c'est... Oui, en Angleterre, c'est vécu assez absolument... on en parle tous les jours, tout le temps. Donc, c'est un sujet très important, mais d'une actualité permanente qui est un peu... Enfin, surprenant quand on vient d'ici. Mais d'autre part, je pense, maintenant, pour moi, Brexit, c'est un très grand événement. Pas le Brexit, pas le référendum, mais le fait que la Grande-Bretagne va partir. Beaucoup d'Anglais espèrent qu'ils ne vont pas partir. Parce que ça pose quelques questions à l'Europe, mais aussi, à mon avis, ça donne une occasion à l'Europe à se restructurer, à se repenser, à se reformer.
Il y a eu des tentatives, oui, je pense que d'abord c'est une occasion de montrer, la négociation pour eux est très pédagogique, parce que d'abord ils vont montrer que si quelqu'un décide de partir, il peut partir et que l'Europe va continuer son chemin, et aussi de prouver que ça a un prix de partir. Et c'est ce qu'ils vont faire aussi sur la Catalogne, c'est de montrer que ceux qui veulent être indépendants, ils peuvent peut-être essayer de le faire, mais que ça a un prix. Et donc il y a une partie psychologique, tactique très importante qui joue en Europe, parce qu'elle va essayer de se renforcer de l'intérieur, paradoxalement, en perdant un de ses membres.
On va continuer avec vous, vous avez choisi... ce thème-là, c'est cette année marquée par l'élection du patron de l'Europe, comme le qualifiait Time le mois dernier, mais prévenait l'hebdomadaire américain, sa voix ne portera pas à l'international s'il échoue sur la scène intérieure. On est 7 mois après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, comment il s'en sort ?
Moi, j'ai quand même envie de dire que si je l'ai choisi, c'est pour ce débat, en fait, qu'il a mené avec Marine Le Pen. Et je pense que c'était un débat...
Dans la campagne présidentielle ?
Oui, voilà, parce que je pense que c'était un moment... très important, qui montrait qu'à un moment donné, on peut quand même, avec des arguments et une ténacité, une certaine fraîcheur et un volontarisme, un optimisme, contrer les arguments de l'extrême droite. Donc ça, c'était très important. La deuxième chose, c'est qu'il offrait aussi l'idée qu'il y a peut-être un renouvellement de la démocratie autrement. On cherche tous d'autres voies et on s'est demandé est-ce que les partis sont obsolètes, etc. Bon, la question reste posée parce qu'il pose maintenant... La troisième chose qu'il a faite et qui était pas mal, c'était de faire croire que l'Europe avait un avenir en lançant un projet, en décidant l'Allemagne à le suivre, plus des petits pays comme la Belgique et la Luxembourg qui l'aident. Mais maintenant, la question est de voir s'il va devenir totalitariste, si un mouvement peut survivre et vivre au-delà d'un seul homme. Et deuxièmement, comment il résiste à l'exercice du pouvoir.
Plutôt un bon bilan, Tania, Julien, rapidement, pour Emmanuel Macron, 7 mois après son arrivée au pouvoir. Tania, peut-être d'un mot, puis j'enchaînerai avec vous, Julien.
Moi, je trouve que c'est très rapide pour parler du bilan, ça c'est sûr.
Sur la scène internationale, ouais. Mais je dirais que le bilan est positif. Mm-hmm.
C'est un point d'étape, on est d'accord, c'est pas
c'est très compliqué. Puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement contestées. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, qu'il n'y aura plus personne à la fin de l'année qui dormiront dans les bois ou dans les rues, et dans le même temps, on voit ce qui se passe au niveau du logement, de l'accès au logement et de la course, la traque qui est faite aux migrants et aux réfugiés, il y a quand même des choses qui sont très problématiques. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une forme de leadership, pour ne pas le faire en français, mais le leadership sur les questions environnementales, en même temps, ne se traduit pas dans les faits par une politique courageuse et ambitieuse. En matière de transformation du pays réellement. Donc, c'est difficile.
Il reste trois ans encore.
C'est pour ça qu'il faut attendre de voir.
C'était juste une première impression. On continue avec vous. Heureusement qu'il y a un homme sur ce plateau pour choisir ce thème. C'est le thème du mot dièse MeToo, le point de départ de la colère des femmes contre le harcèlement sexuel. Là aussi, on en parlait la semaine dernière avec la une de l'hebdomadaire Time. Pour vous, c'est un changement sociétal de fond? C'est la fin d'un tabou? C'est la fin d'une omerta? C'est un peu tout ça?
Alors, c'est marrant, on voyait tout à l'heure l'image du président Macron par Time Magazine. Donc, Time Magazine a désigné personnalité de l'année 2017, justement, toutes les femmes qui ont brisé le silence. Et moi, c'est vrai que je travaille beaucoup pour Arte sur les questions qui sont liées à la transformation de la politique, qui est liée au fait que chacun peut prendre la parole via les réseaux. Et c'est vrai que c'est assez marquant. C'est-à-dire que, en gros, ce mouvement qui est complètement désorganisé, ou en tout cas qui n'est pas structuré, est en train de réussir à nous donner un indicateur, j'ai envie de dire, de terrain horizontal de la réalité de ces harcèlements sexuels. Et c'est pas négligeable. Et c'est vrai qu'on le voit tous au quotidien. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui des tabous qui sont en train de se déplacer, et on se rend compte qu'on faisait comme si les choses étaient... que l'égalité existait entre hommes et femmes, et on se rend compte que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il y a toujours la tentation de venir harceler, de se dire que le libertinage autorise le fait d'être relou. Voilà, ça c'est très problématique. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que pour moi, c'est à mon avis que un début, puisque précisément, quelques semaines après l'apparition de ce hashtag, donc MeToo, balance ton porc en France, on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le numéro anti-relou qui avait été mis à disposition.
Le numéro de téléphone que deux activistes. Les femmes pouvaient appeler
le
pour
principe,
dénoncer.
Le principe, voilà, c'est qu'un individu un peu lourdingue dans le métro, par exemple, vous dit « Allez, donne-moi ton 06, etc. » Vous donnez ce faux numéro, qui est en fait un vrai numéro, vous appelez dessus, enfin en tout cas le relou appelle dessus et il tombe sur un message sur le répondeur qui dit
« Ah ben
non, je suis désolé, voilà, t'as été vraiment relou, si on te dit non, c'est non. » Et voilà, et ça, sauf que les gens qui sont derrière cette campagne-là ont été eux-mêmes harcelés. Ce qui veut dire que d'un côté, on libère la parole, mais d'un autre côté, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Alors, vous avez choisi ces thèmes. Aucun d'entre vous n'a choisi Donald Trump. L'accession au pouvoir était en 2017. C'est quoi ? On s'est habitué ? Vous l'avez mentionné un petit peu.
On s'y habitue, mais on s'y habitue ou pas ? Peut-être qu'on n'a plus envie. On a beaucoup vu et un événement, on a peut-être choisi des événements un peu emblématiques qui volaient un peu plus haut. Enfin, je sais pas.
Non, c'est vrai que c'est arbitraire, mais c'est une catastrophe absolue. Il faut dire ce qui est, c'est une catastrophe absolue. Je ne dis pas qu'Obama a résolu tous les problèmes de la Terre. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit le rôle du président des États-Unis. Mais Donald Trump est en train de tout défaire et tout détricoter.
À suivre aussi en 2018, peur, ouais. 2018 qui arrive dans deux semaines. Qu'est-ce que vous en attendez de cette année, en termes d'actualité évidemment, et quels sont les thèmes que vous allez suivre tout particulièrement, Béatrice ?
Je crois qu'on va suivre beaucoup les thèmes démocratiques. On va voir un peu ce qui va se passer du côté des extrémismes et des populismes. Il y a une série d'échéances qui continuent à être importantes, et je pense que la problématique de l'Europe aussi. Moi, je crois que c'est très important de voir ce que l'Europe va devenir.
Tania ? Qu'est-ce qui va vous intéresser, le Brexit, j'imagine,
ou continuer
sur votre série, mais quoi d'autre?
Le Brexit et les élections en Russie.
En Russie, oui. Ça sera en mars.
Et surtout ce qui va suivre.
Ouais. Et Julien ?
Moi, c'est pareil, mais politique, réseaux sociaux, transformation des usages, et puis nouveaux usages de la démocratie, nouvelle conception de la démocratie, comment faire pour faire en sorte que les réseaux restent des outils d'émancipation et non pas de domestication ou de domination. Je pense que c'est très important et il y a des enjeux très forts.
L'abrogation de la neutralité du net cette
alors,
semaine.
Justement.
Alors, on ne va pas faire le débat maintenant,
mais c'est un fait vraiment marquant et on commence très mal l'année 2018, puisque aux États-Unis, on est en train de défaire un des grands axes majeurs d'utilisation de l'Internet au service de l'accès à l'information et à la connaissance. Et ça, c'est un très très mauvais signe.
Bon, ben ça promet de bons débats encore pour l'année prochaine. Avant d'en arriver là, je vous propose qu'on